VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir l'Afrique, bienvenue à l'édition du vendredi 20 mars 2015. Morgane Guiriec et Jacques Aristide au micro. À la une ce soir, au moins 4 personnes tuées à la machette dans le territoire de Beni en RDC. Crise libyenne, troisième round de négociations aujourd'hui au Maroc entre les deux parlements rivaux libyens. Mais y aura-t-il un accord d'ici dimanche ?
Les deux parties vont d'ici peu rencontrer d'énormes difficultés budgétaires, ce qui risquerait d'envenimer encore plus la situation au niveau de la société libyenne.
Revirement de Benjamin Netanyahou en Israël. Il dément avoir dit qu'il n'acceptera jamais la création d'un État palestinien, mais parle encore de conditions.
À venir dans la partie magazine de cette émission, nous verrons comment d'ex-enfants soldats sont réintégrés au Cameroun.
J'ai trouvé plus de 80 enfants qui étaient dans un camp où ils étaient en train d'être endoctrinés pour éventuellement servir comme support au groupe extrémiste Boko Haram.
Et dans quelques minutes, la Minute Écho et le billet sportif. Mais d'abord, le journal.
Au moins 4 personnes ont été tuées à la machette dans le territoire de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'ont affirmé à l'AFP ce vendredi des militants locaux qui mettent en cause des rebelles accusés d'avoir déjà massacré quelques 260 personnes d'octobre à décembre. C'est dans ce contexte que le chef de la diplomatie congolaise réclame un départ rapide des casques bleus.
Au Congo-Brazzaville voisin, une vingtaine de formations politiques, associations et personnalités, essentiellement issues de l'opposition du pays, demandent au président Denis Sassou Nguesso l'ouverture d'un dialogue international sur la présidentielle de 2016.
Au Cameroun, une quinzaine de voyageurs ont été enlevés dans le nord-est du pays, près de la frontière centrafricaine. Selon l'AFP, c'était lors d'une attaque attribuée au groupe armé du chef rebelle centrafricain Abdoulaye Miskine.
En Côte d'Ivoire, le parquet militaire d'Abidjan s'est pourvu en cassation après la relaxe lundi de 2 soldats accusés du bombardement d'un marché d'Abidjan. C'était lors de la crise post-électorale de 2010-2011.
Le président de la Guinée équatoriale met son pays en état d'alerte sur des menaces terroristes. Cette intervention de Teodoro Obiang-Nguema fait suite au déploiement d'un impressionnant dispositif de sécurité dans la capitale Malabo. On fait le point avec Jean-Roger Billon.
Teodoro Obiang-Nguema a affirmé disposer d'informations suffisantes pour craindre une attaque sur le sol équato-guinéen. Et depuis quelques jours, un impressionnant dispositif sécuritaire a été déployé à Malabo. Sur les grandes artères de la ville, patrouilles militaires et contrôles policiers se sont multipliés. Le président a déclaré notamment « L'Afrique centrale fait face à un phénomène qu'elle n'avait jamais connu, le phénomène du terrorisme », faisant allusion au groupe islamiste nigérien Boko Haram qui a multiplié attaques et enlèvements dans le nord du Cameroun et dans une moindre mesure au Tchad et au Niger. Ces derniers mois. Le terrorisme est déjà arrivé au Cameroun et du Cameroun à la Guinée équatoriale. Il y a quelques kilomètres seulement, a-t-il ajouté d'après l'AFP. Le chef de l'État équato-guinéen a rendu visite hier aux soldats du centre d'instruction des forces armées lors de manœuvres militaires. Sur les images télévisées, on voit une simulation d'affrontement entre des soldats équato-guinéens et un groupe d'insurgés. Petit pays pétrolier du golfe de Guinée dirigé d'une main de fer par le président Obiang depuis 1979, la Guinée équatoriale a déjà eu à faire face à des actes de piraterie maritime, mais jamais aux islamistes de Boko Haram.
Tension au Sénégal dans l'attente du verdict dans le procès de Karim Wade, l'ex-ministre et fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, est jugé pour enrichissement illicite. Emprisonné depuis près de 2 ans, Karim Wade connaîtra la décision des juges lundi. Mais ces derniers jours, certains de ses proches ont été arrêtés. Le pouvoir veut museler son camp, estiment ses partisans. Les détails avec Nicolas Pinou.
Oui, l'arrestation de l'un des avocats de Karim Wade lundi dernier a donné le ton. Maître Amadou Sall a été placé en garde à vue et déféré à la prison de Rebeuz pour avoir déclaré « Si Macky Sall fait emprisonner Karim Wade, il ne passera pas une seule nuit de plus au palais ». Cet ancien ministre PDS n'en est pas à ses premières déclarations fracassantes, mais l'ordre des avocats sénégalais n'a toujours pas commenté l'affaire. Autre arrestation, celle du lutteur Baptiste Heras et d'Aminata Nguiran, coordinatrice du mouvement de soutien Horizon 2017 à Karim. Le pouvoir sénégalais accuse les partisans de Karim Wade de préparer la déstabilisation du pays. Certains y voient plutôt un régime mal à l'aise avec ce dossier judiciaire qui empoisonne le premier mandat de Macky Sall. 7 ans d'emprisonnement, 250 milliards de francs CFA d'amende, la confiscation de ses biens ainsi que la privation de ses droits civiques. C'est ce qu'a requis le parquet spécial de la Cour de répression de l'enrichissement illicite à l'encontre de Karim Ouad. Réponse lundi avec le dénouement de cette affaire judiciaire hors norme.
Le président nigérian, candidat à sa réélection le 28 mars, a dit espérer que l'armée reprenne d'ici un mois toutes les localités occupées dans le nord-est par Boko Haram, ce qui constituerait une victoire décisive contre les islamistes qui multiplient attentats et attaques depuis 6 ans.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Yémen, le groupe État islamique revendique un triple attentat suicide à Sanaa, la capitale. Ces attaques ont fait au moins 142 morts et elles visaient 2 mosquées fréquentées par des Houthis, la milice chiite qui s'est emparée du pouvoir dans la capitale, la yéménite.
La Tunisie commémore son indépendance dans le deuil, 2 jours après l'attentat revendiqué par le groupe État islamique contre des touristes au musée du Bardo à Tunis. Le président Béji Caïd Essebsi a promis une lutte sans pitié contre le terrorisme. L'enquête est en cours. Les derniers éléments avec Salwa Jafari.
C'est un triste anniversaire dans une Tunisie endeuillée, toujours sous le choc. Une 100aine de personnes ont manifesté ce matin contre le terrorisme dans le centre de Tunis et quelques 100aines sur l'île de Djerba, au lieu du tourisme. Les autorités tunisiennes ont fourni plus de détails sur les responsables de l'attentat. Ils sont décrits comme des éléments suspects faisant partie de cellules dormantes. Ils auraient été formés en Libye. Les forces de sécurité tunisiennes sont bien évidemment sur le qui-vive, d'autant plus que le groupe État islamique a revendiqué l'attaque. L'organisation promet plus de violence. Lors d'un point de presse, le chef du gouvernement Habib Sid a reconnu des failles. Parmi elles, l'absence d'agents de la police autour du Parlement et autour du musée. Exemple de transition démocratique au sein du monde arabe secoué par les printemps, la Tunisie qui partage sa frontière avec la Libye en proie au chaos est devenue une cible de choix pour les djihadistes.
Et d'après les autorités tunisiennes, les assaillants se sont formés au maniement des armes en Libye. Pour l'Union européenne, cette attaque contre le musée Bardo visait l'Europe. L'Union promet donc d'y répondre. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, et la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, prévoient de se rendre en Tunisie le 31 mars pour renforcer leur coopération en matière de sécurité.
Reprise du dialogue entre les deux parlements rivaux libyens. Bien aujourd'hui au Maroc, l'émissaire de l'ONU, Bernardino León, cité par l'AFP, est dit espérer un accord sur un gouvernement d'unité nationale d'ici dimanche.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a de nouveau assuré qu'il n'avait pas changé de position sur la création d'un État palestinien, jugeant toutefois que les conditions n'étaient pas encore réunies. Les détails avec Michel Joseph.
Oui, dans une interview diffusée aujourd'hui par la radio publique américaine NPR, Monsieur Netanyahou a déclaré « Je ne veux pas d'un seul État ». Et lorsque je parle de 2 États, cela implique un État palestinien démilitarisé qui reconnaît l'État juif et je m'y tiens. Je n'ai pas changé de position. Pourtant, à la veille des élections législatives qu'il a remportées mardi, le Premier ministre israélien avait bien dit qu'il s'opposerait à la création d'un État palestinien. Mais il soutient qu'il parlait alors des circonstances actuelles qui empêchent, selon lui, qu'un État palestinien voit le jour. Il a parlé du pacte Fatah-Hamas et ce qu'il a appelé l'avènement d'un islam militant dans les territoires qui sont abandonnés. En tout état de cause, le président Barack Obama a dit hier à M. Netanyahou lors d'un coup de fil pour le féliciter qu'il allait devoir réévaluer nos options suite à ses nouvelles positions et à ses commentaires sur la solution à 2 États, a déclaré un officiel américain qui a requis l'anonymat. Et malgré les déclarations consécutive de M. Netanyahou, la porte-parole du département d'État américain Jen Psaki a dit « Nous ne pouvons pas, vous savez, oublier ces commentaires préélectoraux ».
J'ajoute que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, demande au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de confirmer son engagement en faveur d'un État palestinien.
Discussion sur le nucléaire iranien. Les négociations entre Téhéran et les grandes puissances reprendront mercredi. C'est ce qu'annonce le ministère iranien des Affaires étrangères cité par l'AFP à l'issue de 5 jours de pourparlers à Lausanne, en Suisse. C'est dans ce contexte que Barack Obama a demandé à Téhéran le retour aux États-Unis de 4 Américains emprisonnés ou portés disparus en Iran. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Jean-Roger Billon.
La production de café menacée, les cours de l'or brun ont connu une semaine plutôt stable avant d'atteindre ce vendredi à New York leur plus haut niveau depuis la fin février à 143,90 cents la livre. Cette appréciation se fait sur fond de crainte de mauvaises récoltes au Brésil, pays leader dans la production. Selon les analystes, une infestation d'insectes poserait problème dans un certain nombre de régions au Brésil où l'état d'urgence a été déclaré. En République démocratique du Congo, la bancarisation de la paix des fonctionnaires devient une réalité. 700 000 agents de l'État sont concernés et verront leurs soldes virés à la banque, soit un taux de bancarisation de 73%. Le président du comité de suivi de la paix des agents et fonctionnaires de l'État, Jean-Louis Kayembe Wakayembe, l'a révélé au lancement ce jeudi à Kinshasa, au cours d'un atelier pour évaluer la mise en œuvre de cette réforme.
Il convient de noter que la réforme n'avance pas au rythme escompté dans les territoires à accès difficile. En outre, des problèmes d'ordre technique liés essentiellement au mouvement des militaires, à la mobilité des enseignants et au nombre réduit des guichets de banque dans certains territoires se posent avec acuité.
Le président du comité de suivi de la paix des agents et fonctionnaires de l'État en RDC, au micro de nos confrères de Radio Okapi. Et le secrétaire américain au Trésor, Jacob Liu, a réaffirmé aujourd'hui qu'un dollar fort était une bonne chose pour les États-Unis, à l'heure où la flambée du billet vert inquiète pourtant la Banque centrale, la Fed. L'administration américaine a très souvent défendu ce credo, mais cette déclaration intervient au moment où le billet vert s'est considérablement apprécié par rapport à l'euro, renchérissant le coût des exportations américaines et plombant certaines entreprises.
Voilà pour la Minute Éco. Merci bien Jean-Roger Billon.
Les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Football européen, le tirage au sort aujourd'hui à Nyon, des quarts de finale de la Ligue des Champions.
Et il est explosif avec de la revanche dans l'air. Le tirage au sort a accouché d'un derby madrilène Atlético-Real, remake de la finale de la saison dernière. Le Real de Carlo Ancelotti avait alors remporté la fameuse décima, la 10e Ligue des champions du club, au détriment de l'Atlético, champion d'Espagne en titre. Autre retrouvaille, le Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone, puisque les deux clubs étaient au même stade de la compétition il y a 2 ans. Dans les 2 autres quarts de finale, tous programmés le 14 et 15 avril pour les matchs aller, le Bayern de Munich partira favori face au FC Porto, tout comme la Juventus de Turin contre Monaco.
Les quarts de finale de l'autre Coupe européenne sont aussi connus, Nicolas.
Le match entre Wolfsburg, 2e du championnat allemand, et Naples, 4e du championnat italien, est l'affiche de ces quarts de finale de l'Europa League. Par ailleurs, le tenant du titre, le FC Séville, a hérité d'un tirage difficile avec le Zénith Saint-Pétersbourg, vainqueur de l'épreuve en 2008. Et l'affiche a été inversée à l'aller, c'est finalement le FC Bruges, le club belge, qui accueillera, c'est pas facile à dire, le Dniepropetrovsk, le club ukrainien, contrairement au tirage effectué. La raison est simple, un autre club ukrainien, le Dynamo Kiev, accueillera le même jour la Fiorentina.
Dembaba fait son retour en équipe du Sénégal.
Écarté par Alain Giresse, le joueur du Beşiktaş a été rappelé par le nouveau sélectionneur du Sénégal. Aliou Cissé a publié aujourd'hui une liste de 28 joueurs, dont 4 nouveaux, pour les matchs amicaux contre le Ghana et le Havre. Ce sera la semaine prochaine à partir du 28 mars.
Et avant de clore ce tour de l'actualité sportive, quelques résultats de la NBA, le championnat nord-américain de basketball professionnel.
James Harden a marqué jeudi 50 des 118 points inscrits par Houston lors de la victoire contre Denver, 118-108. Privé de son joueur vedette, Anthony Davis, touché à une cheville, la Nouvelle-Orléans s'est inclinée 74-72 à Phoenix. Le duel entre les Lanternes Rouges, New York à l'est et Minnesota à l'ouest s'est décidé en prolongation après un festival de maladresse. Les Timberwolves se sont imposés 95-92 et ont laissé le statut peu enviable de pire équipe du championnat aux Knicks. Enfin, dernier résultat, les Lakers de Los Angeles battus à domicile contre Utah 73-80.
Les sports avec Nicolas Pinault.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgan Guiriec et Jacques Aristide au micro. Place au dossier du jour. Première escale, Jacques, le Burkina Faso.
Eh bien, Morgan, le militant Sibiri Ouédraogo, arrêté en République démocratique du Congo, vous le savez, puis finalement expulsé et rentré dans son pays la nuit dernière, son mouvement pro-démocratie a fustigé ce qu'il appelle les comportements de dictateurs de Kinshasa et appelé à la mobilisation contre les dirigeants africains cramponnés au pouvoir à Ouagadougou. Nous retrouvons notre correspondant Zoumana Wonogo.
C'est dans cette ambiance, mêlant hymne national du Burkina et slogan anti-Kabila, que Ossibi Joanne, le Sibal, c'est par ce néologisme qu'on surnomme les partisans du mouvement Le Balai Citoyen, a été accueilli. Suivons ses premiers mots face à la foule.
Je suis au Burkina et je remercie tout le monde. Je suis vivant. Naturellement, quand il y a les kalachs, il faut avoir peur. Puisque les kalachnikov, c'est pas pour caresser. Je suis très content de revenir au pays, la terre de mes ancêtres. Très content pour toute cette mobilisation pour notre liberté.
Parmi les nombreux accueillants, nous avons retrouvé son petit frère, Simon Ouédraogo, qu'il s'appelle. Il revient sur les temps forts de l'annonce de l'arrestation dans la cellule familiale.
On avait un sentiment de fierté quand il partait. Il partait de façon officielle, invité par le mouvement Flimbi. Mais quand on a appris qu'il a été mis aux arrêts, moi particulièrement, je n'étais même pas inquiété. Une milliseconde. Tous les parents étaient beaucoup inquiétés. Ils pensaient qu'il a commis des gaffes, en fait. C'est moi qui suis allé les expliquer que, bon, c'est une arrestation à valeur politique. Donc, ce n'est pas une arrestation de discipline. Donc, quand j'ai eu à dire ça, ils ont commencé à ne plus s'inquiéter.
Tout en exprimant sa joie de voir libérer le membre de son mouvement, le patron du Balai Citoyen, Smokey, assure que cette arrestation, loin d'émousser leur volonté de lutte, va les galvaniser encore plus.
Ça doit être un sacerdoce maintenant pour la société civile et pour les peuples africains. Il est évident que nous ne pouvons pas continuer à partager le même navire avec des commandants aveugles. Nous devons à tout prix nous intéresser à la manière dont sont dirigés nos États. Et donc, nous sommes de plus en plus dans la réflexion, effectivement, de nous réseauter. On parle de printemps arabe, mais là, je pense qu'on peut peut-être parler pour correspondre un peu plus à notre saison d'harmattan africain, parce que c'est le moment, effectivement, où le vent doit chasser tous ces gens-là qui sont finalement, qui ont des obscurs desseins.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Nous partons pour la Libye maintenant, où le dialogue entre les deux parlements rivaux a repris aujourd'hui au Maroc. Des pourparlers qui visent à arracher un accord sur un gouvernement d'unité nationale dans un pays en proie au chaos. L'émissaire de l'ONU, Bernardino León, dit espérer un accord d'ici dimanche. Pour en savoir plus sur le contexte de ces entretiens et sur leurs enjeux, Saloua Jafari a joint Hélène Bravin. Elle est journaliste spécialiste de la Libye, également auteure du livre « Kadhafi, vie et mort d'un dictateur ».
Alors, il y a différents volets. Il y a un volet politique qui est celui de mettre en place un gouvernement d'union nationale, de faire respecter un cessez-le-feu général, puisque, bon, comme vous l'avez constaté, les milices continuent toujours à se battre. Et enfin, un troisième volet, de demander le retrait de toutes les milices des villes. Voilà, donc l'émissaire de l'ONU a organisé différentes tables rondes auxquelles assistent les députés des deux parlements, hein, le parlement illégitime de Tripoli et le parlement de Tobrouk qui a une reconnaissance internationale.
Alors ces pourparlers interviennent dans un contexte particulier, les attaques à Tunis ont fait 20 morts, les responsables ont été apparemment initiés en Libye, d'où l'urgence de parvenir à un accord global le plus tôt possible. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce contexte particulier? Que se passe-t-il exactement sur le terrain en Libye?
Ce sont les milices de Misrata qui avions décidé de dégager les brigades de Daesh qui sont installées à Sirte. Voilà. Le Daesh progresse de plus en plus en Libye. Aujourd'hui, Daesh est présent par petits groupes dans à peu près 11 villes et 2 localités et d'une façon un peu plus importante à Tripoli. Les Daesh a pris sérieusement pied notamment à Sirte, qui est très proche des installations pétrolières. Et les groupes de Daesh ont déjà pris d'assaut 3 installations pétrolières qui ont été reprises par la suite par l'armée nationale.
Comment voyez-vous la solution à ce conflit ? Croyez-vous qu'une médiation onusienne soit la meilleure solution ?
Écoutez, pour l'instant, oui, l'émissaire de l'ONU fait ce qu'on appelle de la récupération politique, c'est-à-dire qu'il essaye de mettre en place un seul gouvernement et un seul parlement, puisque actuellement, il y a 2 partis qui s'affrontent au niveau institutionnel et cela n'est pas gérable. Les 2 partis vont d'ici peu rencontrer d'énormes difficultés budgétaires, ce qui risquerait d'envenimer encore plus la situation au niveau de la société libyenne.
Voilà, c'était Hélène Bravin, journaliste spécialiste de la Libye, jointe à Paris.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Et maintenant, plein feu comme promis sur les enfants soldats, un phénomène qui perdure sur le continent africain malgré tous les efforts pour mettre un terme au problème. Nous vous en parlions un peu plus tôt, l'UNICEF a ce vendredi même dénoncé l'enlèvement et l'enrôlement d'enfants au Soudan du Sud. Eh bien, scénario similaire dans l'extrême nord du Cameroun où le groupe nigérian Boko Haram a fait subir le même sort à des mineurs. L'année dernière, un groupe d'enfants avait pu être libéré par l'armée camerounaise. Depuis, ils sont suivis dans un centre à Maroua, un centre d'où revient le directeur régional pour l'Afrique au NDI, le National Democratic Institute, Chris Fomuniu.
Effectivement, il faut avouer que dans les différents conflits que connaissent notre continent, l'Afrique, les enfants sont une couche sociale très, très vulnérable. Parce que très souvent, s'ils sont mis dans les camps d'entraînement, ils finissent par se soumettre à des groupes extrémistes, même parfois sans connaître vraiment ce qu'ils sont appelés à faire. Pour le cas de l'extrême nord du Cameroun, effectivement, je me suis rendu dans un camp, dans un centre où j'ai trouvé plus de 80 enfants qui avaient été récupérés par l'armée camerounaise en novembre 2014 parce qu'ils étaient dans un camp où ils étaient en train d'être endoctrinés pour éventuellement servir comme support au groupe extrémiste Boko Haram. Ces enfants qui se trouvent au jour d'aujourd'hui à Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun, sont en train de subir une réhabilitation. Ils sont entre les mains d'un service social qui s'occupe d'eux, qui essaie même de leur donner une formation pour leur permettre de mieux s'insérer dans la société pour une vie normale.
Le problème des enfants soldats n'est pas nouveau en Afrique. Le rapport de l'UNICEF concernant ces enfants enlevés et par le gouvernement et par les rebelles au Soudan du Sud n'est qu'un autre exemple. Alors comment démobiliser ces enfants et interdire l'enrôlement de mineurs sur le continent ?
Tout à fait. Je crois qu'il existe des instruments internationaux, le cadre juridique par exemple, à instituts comme la Cour pénale internationale devrait intensifier ses enquêtes sur ce sujet et aussi publier des avertissements pour que les différents chefs de guerre, qu'ils soient du parti gouvernemental ou bien des groupes rebelles, soient sensibilisés au fait qu'ils pourront être arrêtés et transférés à la Cour pénale internationale pour l'enrôlement des enfants. Parce qu'une fois que ces enfants sont enrôlés dans des conflits armés, ce n'est pas qu'ils vont servir uniquement pour ce conflit, mais ça voudrait dire qu'il y a toute une génération de jeunes Africains qui sont en train d'être sacrifiés. Parce qu'une fois que ces enfants à bas âge auraient tué, effectivement, dans les 10, 20, 30 ans à venir, ça laissera des séquelles sur le plan psychologique, humain et tout, mais également en jetant des bases pour plus de destruction, plus de guerre et plus d'anomalies dans la vie normale dans les décennies à venir.
Chris Fomuniu, directeur régional pour l'Afrique de l'Institut washingtonien NDI. Il était joint d'Abuja où il se trouve en vue des élections du 28 mars au Nigeria.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
cap sur la République démocratique du Congo, où l'accès aux réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter est devenu un calvaire depuis les événements du mois de janvier à Kinshasa. Souvenez-vous, le gouvernement avait fermé l'Internet avant de le rouvrir peu de temps après. Mais à Lubumbashi, par exemple, il y a encore un blocage partiel. Toutefois, les Louchois ont trouvé une astuce pour contourner le problème, comme nous allons le voir dans ce reportage de notre correspondant Narval Mabila.
Les Louchois utilisateurs des téléphonies mobiles Vodacom, Orange, Airtel se plaignent du blocage à la connexion des réseaux sociaux Facebook, Twitter et bien d'autres, alors que le gouvernement prétend avoir levé la mesure à utiliser Internet. Cédric Abeille, que nous avons croisé devant les shops Vodacom au croisement de la chaussée Laurent-Désiré Kabila et Mamayemo, s'explique.
Bon, le problème remonte depuis les événements de janvier 2015 en République démocratique du Congo. L'Internet, depuis lors, a été coupé. Le réseau Facebook, le réseau Twitter et consorts, surtout pour le réseau Facebook qui est pratiquement un moyen par excellence des communications. Donc, depuis lors, on ne s'est pas communiqué avec 100 citoyens et journalistes de la République démocratique du Congo. Depuis que la mesure qui a frappé Internet a été levée, malheureusement pour les réseaux Facebook, il n'est pas encore question, c'est toujours bloqué. Il y a d'autres qui essayent pratiquement de se connecter au réseau Facebook par le seul moyen de posséder une application qui s'appelle tout simplement l'Opéra Mini. Pour disposer de cette application, il faut aussi avoir un téléphone qui soit vraiment compatible avec cette application. C'est un peu ça. Nous nous sommes déjà plaints chez Vodacom, mais quand vous allez chez eux, ils n'ont pas aussi des solutions pourvu que c'est une mesure qui vient pratiquement des autorités du pays.
Ils sont des dizaines de personnes devant les shops Vodacom qui ont subi un training avec les experts de Vodacom qui proposent des services pour contourner le blocage moyennant la monnaie du franc congolais sans engager Vodacom. Chez Orange, on reconnaît la difficulté hors micro par les biais de certains agents dans l'anonymat, mais aucun responsable n'a été disposé à donner des explications claires du blocage des réseaux sociaux qui limitent les libertés des citoyens sous prétexte de la sécurité nationale. Lubumbashi, Narval Mabila pour VOA Afrique.
Salut les amis, c'est Roger Moutou, VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Aujourd'hui, Island Music, de la bonne musique des îles. Zouk, Soka, Kompa. Ouh, ça va chauffer ce soir. Les amis, on continue aussi avec notre sujet de cette semaine. La lecture est-elle primordiale dans notre vie quotidienne? Et vous allez nous appeler pour participer à cette émission, comme d'habitude, au 001-202-619-3140. Ou alors envoyez-nous vos SMS, vos textos à ce numéro d'Abidjan au 225-58-92-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Envoyez-nous vos commentaires aussi sur notre groupe Facebook Roger Moutou, la voix de l'Amérique. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Un coucou aux amis de Dakar qui nous écoutent sur 102 FM. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité. Au moins 4 personnes ont été tuées à la machette dans le territoire de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo.
Au Congo-Brazzaville voisin, des partis d'opposition ont demandé ce vendredi, dans un mémorandum au président Denis Sassou Nguesso, l'ouverture d'un dialogue international sur la présidentielle de l'an prochain.
Au Cameroun, une quinzaine de voyageurs ont été enlevés dans le nord-est du pays, près de la frontière centrale. Africaine.
En Côte d'Ivoire, le parquet militaire d'Abidjan s'est pourvu en cassation après la relaxe lundi de 2 soldats ivoiriens accusés du bombardement de marché d'Abidjan. C'était lors de la sanglante crise post-électorale de 2010-2011.
Et au Burkina Faso, le militant Sibiri Ouédraogo, arrêté en RDC, puis finalement expulsé, est rentré dans son pays.
Et le président de la Guinée équatoriale met son pays en état d'alerte sur des menaces terroristes. Et voilà pour Le Monde aujourd'hui. Ce soir, à la mise en onde, Michel Joseph. Présentation, Morgane Guériec et Jacques Aristide.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Diffusé partout en Afrique francophone. À Dakar sur 102 FM, 91.5 FM Bujumbura, Raga FM 90.5 Kisangani, Sabou FM 96.6, Kindia, Guinée et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.